Vous écoutez Quoi de Meuf, le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture. C'est une discussion à deux. Chaque semaine, accompagnée d'une de mes acolytes, on parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. Je suis Clémentine Gallo.
Et moi, Anne Lorpineau.
C'est parti !
Élue écolo, militante et journaliste, Alice Coffin publie Le génie lesbien aux éditions Grasset qui revient sur son parcours, la lesbophobie ambiante et la critique des médias. Alors puisque cet ouvrage a fait l'objet de critiques virulentes ces dernières semaines, on va en parler avec toi Anne-Laure. Salut!
Coucou!
Comment ça va?
Ah bah écoute, la vie est merveilleuse, hein. Life is wonderful. C'est vraiment super d'être lesbienne en ce moment avec la manif pour tous qui revient d'entre les morts, une lesbienne qui se fait bien défoncer à longueur de temps sur les chaînes du service public. Bref, c'est la belle vie.
Oui, ça tombe bien puisqu'on va justement revenir sur ces attaques.
Bon alors, faut-il présenter Alice Coffin ?
Eh bien oui, peut-être, si vous ne savez pas qui elle est. Donc c'est une élue Europe Écologie Les Verts du 12e arrondissement à Paris. On la connaît ces jours-ci puisqu'elle a notamment participé à la dénonciation de l'adjoint à la culture de la mairie, Christophe Girard, qui a été bien longtemps complaisant avec son ami l'écrivain Gabriel Matzneff. Et donc le dit Christophe Girard est aujourd'hui accusé de viol et d'agression sexuelle sur son ancien employé marocain. Alice Coffin a également milité à La Barbe, qui est un groupe d'action qui existe depuis plusieurs années et qui avait pour habitude de s'incruster dans des réunions au sommet avec des hommes puissants. C'était donc des femmes portant une barbe et venant sur scène. Voilà, on écoute un petit extrait.
En effet, qui d'autre que de grands hommes blancs pour débattre des inégalités de notre siècle ?
Elle a aussi milité au sein du collectif Oui Oui Oui, qui a lutté pour l'ouverture de la PMA pour les lesbiennes. On l'écoute en parler.
Cette discrimination insupportable, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, c'est-à-dire que la PMA, elle existe, elle est accessible pour les femmes hétérosexuelles, mais pour d'autres, célibataires ou lesbiennes, elle est inaccessible, elle est interdite.
Elle a cofondé la conférence lesbienne européenne et malheureusement, elle vient d'être licenciée par l'Institut catholique où elle donnait des cours de journalisme. Alors on rappelle quand même que ça fait 4 ans que MeToo existe et qu'on sait désormais que dans les cas de harcèlement, il faut soutenir les victimes et ne pas se débarrasser d'elles. Voilà, c'est vraiment honteux.
Ouais, absolument triste aussi. Il faut aussi rappeler que Alice Coffin, elle est journaliste et critique des médias. C'est un poste qui est vraiment très compliqué en France. D'ailleurs, elle le rappelle dans son livre. Alors, il faut souvenir qu'en 2012-2013, la France est touchée par une vague LGBT-phobe énorme qui est provoquée par le vote du mariage pour tous. On s'en souvient comme si c'était hier, enfin surtout pour les concernés. Et c'est alors qu'elle a cofondé l'AJL, l'Association des journalistes LGBTI, une association que j'ai moi-même rejointe il y a 3 ans.
Yeah!
Il y a 2 ans, Lass est politiquement opposée à bosser en rédaction, et on peut comprendre pourquoi. Elle a obtenu une bourse Fulbright pour analyser les pratiques journalistiques américaines et françaises sur les questions LGBTQI. Donc elle est allée outre-Atlantique faire sa petite mission, elle a traversé le pays, c'était vraiment très chouette de la suivre par ailleurs. Et à cette occasion-là, elle a vécu et elle a montré combien c'est fascinant que le communautarisme, quand il est institué comme une valeur aux États-Unis, est super positif, à l'inverse d'ici, où il est décrié à haut cri, surtout par le pouvoir récemment. Enfin, quand on entend parler de séparatisme. Bref, comment tout ça, ça change notre travail de journaliste? Elle le dit dans le livre. En France, parce que je suis journaliste lesbienne, on m'interdit de couvrir des sujets lesbiens. J'ai été bâillonnée. C'est absolument terrible de s'en rendre compte, mais c'est le cas.
Oui, c'est vraiment un paradoxe. C'est peut-être quelque chose qui n'est pas évident pour les personnes qui ne sont pas journalistes, d'ailleurs, à comprendre.
Oui. D'ailleurs, dans le livre, elle revient là-dessus. Elle remet en cause la neutralité qu'on institue comme une valeur cardinale dans la façon dont on enseigne le journalisme en France. Et elle explique que la subjectivité peut être, au contraire, quelque chose d'extrêmement positif, que quand on est dans une communauté, on a un accès aux sources privilégiées, que c'est une expérience spécifique qui enrichit le travail journalistique. Et que quand on accuse les journalistes d'avoir une subjectivité, voire un militantisme, c'est quelque chose de très très français, puisque le militantisme et la subjectivité, aux États-Unis comme presque partout dans le monde, c'est quelque chose de positif. On comprend donc qu'en France, objectivité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le point de vue d'un homme blanc, cisgenre et hétérosexuel.
Pour parler un peu plus précisément du livre, elle aborde également la question du coming out, qui est un vrai tabou en France, et notamment en politique, puisqu'elle explique qu'on assiste surtout à ce qu'on appelle des coming out désincarnés. Et surtout, en France, on n'a pas le droit d'en parler. Et donc, en réaction à ça, elle a co-créé la cérémonie des Outdoors qui célèbre chaque année les productions médiatiques LGBTQI. Elle explique aussi qu'il y a peu de presse communautaire en France. On peut citer notamment Comity des Têtus, mais voilà, c'est à peu près tout. Elle raconte aussi la violence du placard médiatique et des sous-entendus. Oui, donc c'est un placard qu'elle associe aussi à l'alcoolisme dans son cas personnel, c'est-à-dire une manière de se fondre dans la norme hétéropatriarcale et hétérosexiste à tout prix.
Ouais, et c'est un moment qui est absolument passionnant dans le livre. Elle parle aussi du contrat social que c'est d'être lesbienne. Pour elle, c'est pas juste une orientation sexuelle, c'est tout un petit monde. C'est pas un hasard d'ailleurs si elle a choisi la librairie féministe lesbienne parisienne Violette & Co. pour parler de son livre. Elle explique en creux l'alliance qui est formée entre les lesbiennes. Elle évacue assez rapidement les drama queens, ces espèces de clash qui existent dans le milieu lesbien. Mais elle parle par contre du gouinistan, c'est une expression qui a été inventée par l'esprit malin qui se cache derrière lesbien raisonnable par ailleurs. Elle en parle comme d'une fête, la vie privée et la vie pro sont mélangées. D'ailleurs, elle milite avec sa compagne Yuri Casalino, qui est très très souvent citée dans le livre et qui prend même la plume à un moment pour parler du temps du Pulp, qui était une boîte parisienne lesbienne des années 90-2000 qui est hyper connue.
C'était un lieu assez exceptionnel puisque... D'une part, c'était un lieu tenu par que des gouines, donc avec une ambiance comme à la maison. Et puis, c'était un lieu où on avait des soirées, principalement le vendredi soir, assez exceptionnelles, mélangées, plus des gouines, avec une musique de super bonne qualité et une ambiance vraiment exceptionnelle.
Oui, qui nous manque, c'était le bon vieux temps.
C'est un moment qui est très intéressant quand elle en parle d'ailleurs.
En effet, elle raconte comment fonctionne la solidarité dans la minorité. Elle raconte notamment la création du lobby qui s'appelle Lesbiennes d'intérêt général. Et d'ailleurs, elle cite des lesbiennes qui sont soit connues, soit inconnues. Donc, on peut penser à la comédienne Ellen Page, la joueuse de foot Megan Rapinoe. Elle rappelle aussi qu'il y avait des lesbiennes parmi les suffragettes, parmi les femmes du MLF, et que les femmes qui ont créé le mouvement Black Lives Matter sont des femmes queer. Donc, il faut quand même le rappeler. Elle raconte aussi l'importance simplement du mot lesbienne, donc the L word. D'ailleurs, rien que le titre de son livre a l'air de choquer les gens. Elle écrit « Le mot lesbienne fait peur. Lesbienne, lesbienne, lesbienne. Le dire est une transgression, une émancipation, une révolution. Le terme terrifie les lesbiennes qui répugnent parfois à l'employer. » Le livre rappelle aussi la victoire du collectif SIO Lesbienne, qui est parvenu à changer, en tout cas temporairement, si l'on en croit nos dernières recherches sur Google, l'algorithme de Google pour le référencement du terme lesbienne qui était auparavant associé essentiellement à du porno. Donc maintenant, quand on tape lesbienne, on a accès à de vraies informations, ce qui est quand même le minimum.
Et malheureusement, l'autrice rappelle aussi le procès qui lui est fait, donc de placer les hommes sur un bûcher. On écoute ce petit florilège concocté par un arrêt sur image.
Et voilà ce qu'elle écrit. Il ne suffit pas de nous entraider, il faut à notre tour les éliminer.
Les éliminer de nos esprits, de nos images, de nos représentations.
Je ne lis plus de livres des hommes, je ne regarde plus leurs films.
Elle ne regarde plus de films réalisés par des hommes, qu'elle n'écoute plus de musique composée par des hommes.
Elle dit également, les hommes, je ne regarde plus leurs films. Alors ça c'est formidable.
C'est génial.
Les hommes, je ne regarde plus leurs films, je ne lis plus leurs livres.
Dis donc, il ne va pas lui rester grand chose quand même.
Oui, donc c'est quand même assez fort de café, hein, pour ne pas dire plus. D'ailleurs, une grande partie du livre est consacrée à démontrer le côté ubuesque de cette éternelle contre-attaque anti-féministe et anti-lesbienne, une contre-attaque qui a un nom, ça s'appelle le backlash. Mmh. Elle commence en rappelant ce pouvoir mou et latent qu'ont les hommes en tant que pouvoir. C'est un moment qui est assez jouissif à lire. Elle montre que les hommes en tant qu'entité, c'est une statistique d'influence. Elle montre cette lente procession de costumes-cravates qui se promeut elle-même, qui avance d'un seul pas vers la victoire ou le précipice. Elle appelle ça la molle farandole. J'ai trop envie
la
de...
demi-molle.
La demi-molle farandole. Elle termine son livre par un scud hyper nécessaire en affirmant que la demi-mesure n'est pas de mise dans l'énonciation de la guerre des sexes, hein, qui se mène d'ailleurs depuis des siècles et au détriment des femmes en tant qu'ensemble. Ce qu'elle a martelé le dimanche 11 octobre quand elle a été invitée sur le plateau de C'est politique.
Le discours de généralité, c'est un discours politique. Hein. Les hommes, c'est pas chaque homme, s'il faut vraiment rassurer ces messieurs. Et c'est surtout parce que tout discours politique, tout discours historique, tout discours sociologique, il est à base de généralité. Vous voyez, si vous dites, je sais pas, moi, les Français en 1830, vous allez pas dire not all French, s'il vous plaît. Comme on pourrait dire, on a le fameux not all men, comme si tous les hommes ne devaient pas être concernés. Donc, d'abord, c'est me nier, c'est nier aux féministes, ce qu'on fait toujours, le droit à un discours politique. Et puis après, eh ben ouais, je dis les hommes parce que c'est aussi une phrase d'Anaïs Bourdet, qui est la fondatrice d'une magnifique plateforme numérique qui s'appelle Petashneck, et qui disent, bah, qu'elle aussi, elle dit les hommes, par exemple, parce que trop nombreux à encore nous traumatiser, trop peu à nous aider, et que dans la balance, Mais ouais, pardon, dans la balance. Oui, je me permets de dire les hommes.
Oui, puis surtout que la guerre des sexes, elle ne naît pas avec les propos d'Alice Coffin qui réagit, elle naît avec la misogynie et le patriarcat depuis des centaines d'années.
Ouais, c'est un cauchemar de devoir le rappeler, mais ouais,
c'est ça.
Donc elle rappelle aussi les statistiques qui parlent d'elles-mêmes. Elle cite les milices d'hommes qui se sont organisés pour faire taire les femmes ou les maintenir dans un rôle victimaire et non militaire. D'ailleurs, moi j'ai trouvé ça ouf de l'apprendre comme ça. Mais elle cite Hollande qui, au lendemain des attentats de 2015, voulait apparaître devant les caméras entourées d'hommes. Donc il avait demandé aux femmes de son entourage de disparaître pour donner une image plus sérieuse.
Incroyable, peut-être pour se reviriliser lui aussi.
C'est ouf. Elle rappelle aussi l'importance de la généralisation face aux not all men, car les chiffres parlent d'eux-mêmes, encore une fois. Et elle explique tout ça en disant « Eux ne se privent pas de dire les femmes. Les hommes s'autorisent même sans vergogne de fréquent la femme. » Alors oui, je dis les hommes.
En fait, ce que fait ce livre, et c'est assez incroyable, c'est qu'il annonce le backlash à venir qui est en train d'avoir lieu en ce moment. C'est comme une sorte de prophétie autoréalisatrice. Il faut lire le livre pour comprendre la réaction, justement, au livre.
Ouais.
Puisque, on le rappelle, des siècles de misogynie n'ont fait réagir personne avec la virulence qui est aujourd'hui mobilisée contre elle. On parle même de sectarisme, de racisme, vraiment, on voit pas le rapport, de séparatisme, alors que ce qu'elle dit, simplement, c'est qu'elle veut pouvoir lire des livres écrits par des femmes et écouter des compositrices. C'est donc une indignation qui est sélective, qui ne s'adresse qu'aux femmes. C'est vraiment ahurissant.
C'est
une
triste.
Forme de bêtise et de réaction presque mécanique. D'ailleurs, on l'écoute en parler sur LCI.
C'est vraiment, enfin moi, c'est ce que j'ai essayé de faire dans le livre, c'est d'aller dire très frontalement ce qui se passe. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut même pas dire, même ça. C'est-à-dire, on n'est même pas en train de répondre avec leurs armes à eux, à la mesure du massacre qu'ils commettent tous les jours. Pas du tout. On essaie juste de le dire, et rien que ça, de l'énoncer, ça pose un problème.
Alors si Alice Coffin cite plusieurs fois dans le livre la somme de Suzanne Faloudi backlash, c'est parce qu'elle-même déjà l'a bien connue. À l'instar d'une autre militante comme Caroline De Haas, elle est régulièrement la cible d'attaques sur les réseaux sociaux. Ça a d'ailleurs commencé cet été quand elle a explosé à raison dans l'hémicycle du Conseil de Paris après le bon vieux clin d'œil masculiniste du préfet l'Allemand à Christophe Girard.
Merci beaucoup, monsieur le préfet.
Elle a subi de nombreuses attaques, des centaines venant de personnes anonymes, mais les plus graves venaient des politiques eux-mêmes ou elles-mêmes, et notamment de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Alors ici, nous n'appliquons pas la méthode dont parle Alice Coffin, qui est de ne jamais attaquer des femmes, même si elles ne sont pas du même bord politique que soi. Donc depuis, elle a été cyberagressée, menacée, également menacée de mort. Elle a même dû être mise sous protection policière. Voilà. Alors on se demande si ces réactions ne sont pas totalement disproportionnées et comment est-ce qu'on peut aujourd'hui parler d'hystérie féminine face à ces réactions masculines qui sont d'une violence incroyable.
Encore une fois, c'est d'une tristesse sans nom. Il y a un article de Paris Match qui a mis le feu aux poudres avant même la sortie du livre. L'article en lui-même est intéressant. La journaliste explique qu'elle écrit depuis sa position de journaliste lesbienne, ce qui est une avancée par ailleurs. Et elle tombe directement dans l'attaque depuis cette posture-là en alignant les poncifs. Mais ça reste encore de l'ordre de l'opinion. Par contre, il a été repris par Radio Classique sur les réseaux sociaux. Alice Coffin a été mal citée et c'est là que ça a explosé. Elle a été harcelée, menacée de mort. Encore une fois, c'est ça, la France aussi. Aujourd'hui, une lesbienne qui ouvre sa gueule en France, elle se fait menacer de mort. Et ça a donné naissance au hashtag « Je soutiens Alice Coffin » qui a été dans les Trend Topics pendant un petit moment. Moi, j'ai eu une émotion mignonne et à une réaction que je trouve pour le coup très très lesbienne à la haine sur les réseaux. Outré qu'une militante lesbienne explique désormais ne lire, voire contempler que les œuvres de femmes, pour rattraper le temps perdu, je cite, de nombreuses militantes féministes et lesbiennes ont décidé de prendre des photos de leur bibliothèque pour faire exploser l'intensité de l'angle mort qu'ont les détracteurs sur l'autoroute de la life. Franchement, faites attention, on vous double, les gars.
Oui, surtout, elle a vraiment été attaquée par des collègues, des confrères et des consoeurs qui ont mal fait leur travail, puisqu'ils ont, et elles ont mal cité son livre et mal résumé la teneur de ses propos pour faire du clic, faire de l'audience sur son dos, ce qui est quand même vraiment regrettable.
Alice Coffin, journaliste des médias, pourrait analyser ce traitement-là plus tard.
Sûr. Alors toi, qu'est-ce que tu as pensé du livre ?
Donc même si ce livre est plein comme un œuf de noms de lesbiennes et de féministes qui ont rendu audible la voix des femmes, On en a parlé ici, Anna Gatsby, Aileen Shaikin, Catherine Lara, Jill Soloway, Suzette Robichon, Adèle Haenel, enfin, j'en passe et des meilleurs. On peut légitimement regretter que le personnage principal de ce livre, ce soit Lise Coffin, que le livre soit l'histoire du personnage d'Alice Coffin et de sa compagne Yurika Salino circulant dans un monde anti-Coffin écrit par Lise Coffin. Mais vous savez quoi ? En fait, pourquoi pas ? En fait, elle a juste le droit de se placer au centre, elle est légitime au centre, sur une estrade qu'elle s'est construite elle-même dans sa vie perso, militante et politique. Donc, au-delà du cri, du rappel méthodique et clinique des mécanismes d'invisibilisation des lesbiennes et de l'assassinat des femmes par les hommes, j'ai trouvé beaucoup de tendresse, et je tiens à dire énormément de tendresse dans ce livre. D'abord parce qu'on découvre ce personnage André avec lequel elle a grandi, une sorte d'alter ego, parce que quand on grandit lesbienne, on a un petit personnage en soi pour pouvoir avancer, pour se reconnaître dans le monde. Un personnage souvent masculin. Donc ça, c'est extrêmement mignon. Quand elle raconte aussi le contrat social entre les lesbiennes qui se reconnaissent dans la rue, ces petits moments flottants où on sent que quelqu'une est à côté et de notre côté, ces mots qu'on invente sans cesse pour se définir un peu dans ce côté-là, du Gwynistan à Drama Gwyn. Elle raconte aussi les costumes, les coutumes, elle raconte les butches qui, par leur performance de genre, gênent aux entournures. Et ça, on en connaît tellement qui s'en prennent plein la gueule toute la journée. Ce livre, c'est un peu un verre de jus de citron, efficace pour retrouver la santé, mais aussi un bol de lait chaud au miel quand on est malade. D'ailleurs, pour terminer sur une bonne nouvelle, et j'espère que Alice Coffin le sait et qu'elle sait qu'elle fait beaucoup pour la communauté, ce week-end a eu lieu la première Pride de La Roche-sur-Yon avec plus de 1200 personnes marchant contre la haine sur les terres du Puy du Fou. La demi-vendéenne que je suis est très heureuse de ça, et c'est grâce à des livres comme Le génie lesbien que des Prides vont naître un peu partout dans le monde, j'en suis sûre. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé ?
Oui, hein, moi ça me fait plaisir de voir que les temps changent et que ce genre de livres peuvent sortir, mais en même temps il y a toujours un pas en avant, un pas en arrière. Enfin, moi je ne m'attendais pas du tout à ce genre de réaction. Je pensais que le livre allait passer un peu inaperçu et que du coup on allait être peut-être les seuls à en parler.
Putain, la meuf elle est déjà en 2050.
Ouais, c'est ça, donc comme quoi j'ai vraiment des œillères. Voilà, moi-même je me souviens très bien avoir rencontré Alice quand elle était encore journaliste à 20 minutes. D'ailleurs je me reconnaissais assez dans sa position, c'est-à-dire se sentir en danger parce qu'on est une femme féministe au sein d'une rédaction et être tout le temps incriminée pour cette expertise. Moi de mon côté j'ai été harcelée pas parce que j'étais lesbienne mais simplement parce que j'écrivais sur les questions de genre dans la culture et que c'était avant MeToo, que c'était très mal vu, qu'on me disait que j'étais obsédée, pas objective. Etc. Alors que précisément, voilà, être un journaliste culture, c'est être un rubricard spécialiste et exprimer une subjectivité, je pense. Et donc moi, je me souviens très bien comment elle était traitée à 20 minutes, comment elle devait louvoyer, s'excuser, se protéger et comment finalement ils l'ont un peu eu à l'usure. Et à l'époque, je me disais qu'elle avait une position qui était dangereuse en fait, aussi parce que c'était une grande gueule et je voyais pas très bien comment elle pouvait s'en tirer. Voilà, en tout cas, je suis quand même ravie qu'on ait suffisamment évolué pour qu'elle puisse appeler son livre Le génie lesbien et pour qu'il marche en librairie, puisque c'est le cas. Mmh. Je trouve aussi intéressant son parti pris de ne jamais critiquer les femmes, pas parce qu'elle est essentialiste et qu'elle considère que les femmes seraient par nature géniales, mais parce qu'elle dit qu'il y aura toujours quelqu'un d'autre pour le faire. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on peut garder en tête comme stratégie peut-être quotidienne. Ouais. Et j'ai aussi apprécié que contrairement à beaucoup de biographies masculines, elles ne construisent pas sa carrière sur la tête de sa conjointe, hein, puisque c'est le cas de beaucoup d'hommes écrivains qui remercient à peine leur femme ou leur conjointe à la fin de leur livre, alors que cette personne souvent leur a permis d'écrire. Donc voilà, donc je trouve que c'est appréciable. Et aussi, je pense que, voilà, pour conclure, au lieu de faire circuler des propos hystérisés et sortis de leur contexte, il faut absolument lire ce livre dans son intégralité, parce qu'il est essentiel, mais il est aussi joyeux, on le rappelle. Mmh. Et Alice Coffin a aussi été interviewée par Lorraine Bastide dans La Poudre. On vous recommande chaudement d'écouter cet épisode au long cours.
Oui!
C'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode long dans lequel on parlera peut-être encore de crop top et du corps des jeunes filles. Quant à nous, vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux @quadmeuf. Vous pouvez également retrouver toutes les références dans le descriptif de l'épisode. Vous pouvez nous laisser des étoiles sur Apple Podcasts, ça nous aide à être référencés. Merci, salut Anne-Laure.
Salut.
Quadmeuf est une émission de Nouvelles Écoutes. Cet épisode est conçu par Clémentine Gallo
et présenté avec Anne-Laure Pinault.
Mixage Laurie Galigani, générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux, prise de son, montage et coordination Ashley Tola.